Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Jeudi dernier, le 7 mai, plusieurs mesures en prélude au déconfinement ont été annoncées par le gouvernement. Parmi elles, le ministre de la Santé a promis une prime de 1 500 € pour tous les personnels des EHPAD travaillant dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte, et de 1 000 € pour les autres. Il faut dire qu'à côté des hôpitaux et personnels hospitaliers qui ont attiré l'attention des pouvoirs publics et des citoyens, les EHPAD sont pourtant ceux qui ont payé le plus lourd tribut au Covid-19. Plus de 12 700 résidents y sont morts depuis le 1er mars 2020, qui représente, on le sait, plus de la moitié des victimes du coronavirus en France. Dans l'un des EHPAD du Haut-Rhin, 76% des résidents ont été testés positifs. Dans cet autre établissement de Grasse, sur la Côte d'Azur, plus d'un tiers des résidents sont décédés des suites d'une suspicion au Covid-19. Le parquet de Grasse, rapporte Le Figaro, a d'ailleurs ouvert une instruction pour homicide involontaire et omission de porter secours à personne en péril. D'après une enquête du quotidien Le Monde rendue publique début mai, cette hécatombe serait le résultat de 3 facteurs combinés. Le manque de masques est un constat unanime, explique Béatrice Jérôme. Il a conduit les personnels à transmettre le virus aux personnes âgées qui l'ont payé de leur vie. Vient ensuite le manque criant de tests, limité à 3 par établissement dans un premier temps. Enfin, la prise en charge des malades venus des EHPAD par les hôpitaux est jugée inégale et c'est le 3e facteur aggravant. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, pour évoquer cette tragédie, nous avons rencontré 3 personnes directement concernées. Le fils d'une résidente, un directeur d'établissement et une salariée en EHPAD. Ce n'est pas une enquête exhaustive, ce ne sont pas des porte-paroles ni des échantillons représentatifs, mais 3 témoignages, 3 personnes qui en disent long tout de même sur ce qui a pu se passer pour de nombreuses personnes âgées résidant en EHPAD et leurs familles. Rémi Dibowski-Douat est l'auteur de ce sujet enregistré la semaine dernière, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Gabriel Weisser, j'habite dans le Haut-Rhin, non loin de Fessenheim, dans un petit village qui s'appelle Blödelsheim. J'ai 52 ans et je travaille au sein de l'éducation nationale en tant que conseiller principal d'éducation dans un établissement scolaire à Guebwiller. C'était le 15 avril 2020, donc l'EHPAD dans laquelle était accueillie ma maman, le médecin de garde m'a appelé, il était 10h30, je sortais à peine du lit d'ailleurs. Et la terrible nouvelle est tombée, alors que je m'y attendais pas, parce que ma maman était confinée et bien protégée dans cette maison de retraite. Elle venait donc d'être contaminée par le virus du Covid-19. Les propos de ce médecin étaient imparables. Elle avait donc une fièvre, une toux persistante et des difficultés respiratoires, donc symptômes de ce Covid-19. Donc je peux vous dire que lorsque cette nouvelle m'est arrivée, alors que la semaine précédente, ma maman donc, était bien portante, même si elle était fragile liée à son âge, je suis vraiment tombé je dirais de ma chaise. D'ailleurs même ma fille, Luce qui a 18 ans, quand elle s'est réveillée un peu après et que je lui ai annoncé la nouvelle de la contamination de leur grand-mère, de mamie Denise comme on dit, donc ma fille, elle, quand j'ai dit ça, elle m'a dit « Mais papa, c'est pas possible qu'elle va mourir. Hein, » Donc ils vont pouvoir faire quelque chose dans le sens où « Mais on va la soigner. » C'est ça. Elle a attrapé ce virus, on va la soigner. Or, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui était prévu comme soin et il m'a dit qu'il y aurait des soins uniquement palliatifs. Donc pas de soins curatifs. Pas d'antiviraux, pas d'antibiotiques, rien, juste un accompagnement vers la mort. Et donc effectivement, que malheureusement, dans ce cas-là, le pronostic il était réglé et que voilà. Donc j'ai ramené mes filles parce que je suis donc séparé de leur maman. Hein. J'ai ramené les filles donc à Fessenheim où elles habitent avec leur maman. Hein. Et sur le retour. Mon grand frère m'a contacté. J'ai arrêté le véhicule sur le bord de la route. Et c'est là que j'ai appris. Donc le décès en même pas une journée de ma maman. Donc lorsque j'ai envoyé immédiatement l'information à mes filles, là elles sont tombées des nues. Et notamment Luce la plus grande, qui avait effectivement, qui est née dans un dans une société moderne, avec des systèmes de soins modernes, avec des hôpitaux où on prend en charge les malades, et tout d'un coup elle a découvert effectivement quelque chose qui est horrible. L'impossibilité des hôpitaux, des EHPAD, de prendre en charge les personnes âgées qui seraient contaminées par le Covid. Et que la seule issue, malheureusement, était fatale. Tout ça pour des raisons vraiment ridicules d'accès à des masques et à des tests. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est le désarroi total. D'autant plus que moi, j'avais, suite à des paroles publiques, notamment du président de la République, j'avais encore espoir qu'en France, on puisse réussir à rattraper le retard qu'on avait, notamment sur ces masques et sur ces tests et tout. Et je me disais que c'était possible parce que à côté de là où j'habite, de le pays voisin, l'Allemagne, eux, ils avaient fait des choses remarquables, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont des taux très, très bas de décès. Et donc, je me suis dit, nous, on va réussir aussi comme les Allemands. Hein. On va réussir à dépister, on va réussir à donner des masques, on va réussir à donner des traitements. Eh ben non, un mois et demi après, alors que chez nous, en Alsace, ça flambait directement, donc dès la première quinzaine donc du mois de mars, donc... dans le Haut-Rhin notamment, lié notamment à cette réunion évangélique, et ben un mois et demi après, rien n'était réglé. C'est une histoire surréaliste qu'on vit, c'est un cauchemar éveillé. Et là, je peux vous dire que depuis des jours et des nuits, je suis complètement bouleversé. D'autant plus que finalement, il me reste que le confinement, que l'enterrement, ben, ça va être un enterrement vite fait, bien fait, pour les raisons sanitaires que nous a imposées l'État français, alors que finalement, si c'était donné quelques... Si l'État français avait fait quelques petits efforts et tout, on aurait pu améliorer les enterrements, les cérémonies, rien du tout, on fait tout à minima, et c'est l'ensemble de la population qui doit prendre sur elle et tout, jusque dans le deuil. Et ça, c'est inadmissible. C'est intolérable et tout. Et quand le président, il nous dit, ben voilà, retourne... dans sa dernière allocution, devant 36 millions de Français, il dit « Voilà, on en est là, nanani nanana », et qui rajoute ben, « Pour retrouver les jours heureux », mais comment vous voulez qu'on retrouve les jours heureux ? Pour des histoires de tests, des histoires de masques. Ma maman, elle est partie. Elle reviendra pas. Et lui, j'ai pas pu faire le deuil, et je pourrais pas faire le deuil, en fin de compte, dans ces conditions-là. Et je vais devoir porter cette souffrance jusqu'après le confinement. Et peut-être qu'après le confinement, ça on a regardé avec monsieur le curé, elle sera enterrée donc mercredi prochain, donc 7 jours après sa mort, dans sa commune de naissance. Et le curé nous a proposé de faire une messe après coup. Ce qui est extraordinaire en France, et là, je m'en veux d'avoir fait confiance comme ça aux autorités françaises. C'est ce que jusqu'au bout, je suis allé voter. Hein. J'aurais jamais dû aller voter. Jusqu'au bout, on nous a dit, ben c'est pas si grave que ça. C'est uniquement les personnes âgées et encore pas n'importe lesquelles, celles qui sont vraiment gravement malades, qui peuvent décéder. Hein. Donc, à ce moment-là, on découvre le poteau rose. Et on découvre que finalement, gouverner, c'est prévoir. Et que les autorités françaises, que le gouvernement français n'a rien prévu. Hein. Après la douleur, après le désarroi, ma détermination, ma colère est arrivée. L'anéantissement, j'ai dit, mais non, je peux pas. Je suis en train de vivre exactement ce que d'autres personnes sont en train de vivre. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, mais on est dans un état de droit. Donc j'ai dit, concernant notamment l'absence, la pénurie de masques, l'absence, la pénurie de tests qui ont entraîné la mort de ma maman, je vais poursuivre l'autorité régionale de santé. Et là, je vais le faire pénalement. Alors, dans un deuxième temps, je porterai plainte contre le ministre de la Santé. Et j'ai souvenir de ces louvoiements complets entre on a des masques et finalement on n'a pas de masque. Et donc là, la juridiction, elle est un peu particulière. Il faut donc saisir la Cour de justice de la République dans l'espoir qu'elle puisse après donner la possibilité de poursuite pénale dans les tribunaux ordinaires. Et moi, ma réparation hein, que je souhaite auprès des autorités françaises, auprès du gouvernement français, c'est au moins qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Qu'ils reconnaissent qu'effectivement, ils n'ont pas été à la hauteur, et notamment qu'il y a eu pénurie de masques et pénurie de tests qui ont entraîné des conséquences tragiques qu'on sait notamment dans les EHPAD. C'est tout ce que je veux.
Alors, je m'appelle Éric Lacoudre, je suis le directeur de l'EHPAD Le Bosquet de la Mandalaz à Sillingy en Haute-Savoie et de l'EHPAD Le Verger des Coudries, tout près de Thonon. Alors, ça a été assez compliqué, on a été bien malchanceux, il faut bien dire les choses, puisqu'on a été situé de l'EHPAD de Sillingy à proximité immédiate d'un des premiers clusters, le regroupement du foyer du Covid de France, le cluster de la Balme de Sillingy. Donc, on a été vraiment confronté très, très vite au virus. Dès le début mars, le 2 mars, on savait avec la proximité qu'il fallait qu'on prenne toutes les précautions. Le 2 mars, on a fermé l'établissement aux visites bien en amont de toutes les consignes gouvernementales. On avait mis le port du masque, on avait vraiment tout mis en place très rapidement. Malgré ça, le virus est rentré, il est rentré en force dans l'établissement, puisqu'on a eu le premier cas confirmé au 9 mars. La problématique que l'on s'est rendu compte après, c'est que comme on ne connaissait pas suffisamment bien ce virus, une fois de plus, on nous avait dit c'est une grippe. Une grippe, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait pour une grippe? On prend la température. À partir du moment où la température elle monte à 38, 38,5, 39 de fièvre, à ce moment-là, on connaît nos procédures, on isole les résidents, on les met en sécurité et puis on arrive à endiguer les épidémies de grippe. C'est pas toujours très simple, mais ça, c'est des choses que l'on sait faire. Ce qu'on ne savait pas à l'époque et qu'on a vu après, c'est que le 9 mars, quand la personne elle a eu les premiers cas symptomatiques, elle avait déjà depuis plusieurs jours des toutes petites fièvres. Vous voyez, c'est la différence, c'est la difficulté d'identifier les symptômes. Et pendant ce temps-là, on s'est rendu compte que le Covid, il s'était répandu largement au sein de l'établissement. C'est répandu sans qu'on le voie et sans qu'on puisse vraiment agir. Donc là, on a surveillé et on a eu à nouveau des personnes qui eux-mêmes, à leur tour, entre le 9, le 10, le 11, en l'espace de 48 heures, on a eu des poussées monstrueuses de ce virus qui attaque, en fait, de manière très forte. Et on a perdu, je crois, que 5 résidents de mémoire dans les 3 premiers jours qui ont suivi le premier cas. Donc ça a été une extrême violence. Et on a eu notamment un dimanche, c'était donc le dimanche d'après, c'est peut-être le 22 mars de mémoire, alors qu'il y avait eu une semaine sans décès, on a eu 4 morts le même jour. Et là, ce sont des conditions qui sont effectivement extrêmement, extrêmement compliquées. Pourquoi c'est compliqué? Parce que d'abord, vous appelez des services d'urgence et puis vous leur dites « bonjour, on a un cas de Covid-19 ». Donc au début, ils disent bah, « ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la personne ». On va s'en occuper et puis on va l'accepter au sein de l'hôpital. Ça a été vrai pendant quelques jours ou une quinzaine de jours à peu près. Puis après, l'épidémie s'est répandue hein, en Haute-Savoie. Après, vous appeliez le service des urgences. On dit, on a un cas de Covid-19. Et le monsieur disait, ben, je suis désolé, mais nos services sont saturés. Donc, on ne pourra pas venir chercher votre personne atteinte du Covid. Donc, on a beaucoup de résidents qui sont restés sur l'établissement. Et donc, on a dû accueillir effectivement des fins de vie. On a 20 cas où le virus a attaqué fortement. On en a 2 qui, jusqu'à ce jour, ont survécu à une attaque forte du virus, uniquement 2 personnes. On n'en a que 5 qui sont décédés à l'hôpital, 13 qui sont décédés au sein de l'établissement. Et les accompagnements de fin de vie comme ça sont effectivement très compliqués. En parallèle de ça, on a aujourd'hui, on arrive à une vingtaine de nos salariés qui ont été touchés depuis maintenant 6 semaines au niveau du virus. Donc au 16 mars, il nous manquait 50% de notre effectif, physiquement présent sur le terrain. Le virus est arrivé sur un secteur extrêmement fragilisé, avec des conditions de travail détériorées, un manque de personnel quasiment chronique, et donc le virus est arrivé à ce moment-là. Donc il faut déjà dire qu'en temps normal, c'était compliqué. Là, vous imaginez bien que à 50% de personnel absent, notre fonctionnement a été extrêmement difficile. Et puis, vous avez une absence de réaction. Vous vous dites, mais pourquoi on s'intéresse pas? Pourquoi on s'intéresse pas aux EHPAD ou pas suffisamment vite? Et ça, cette partie-là était aussi humainement très compliquée à gérer, avec le sentiment de dire qu'une fois de plus, malheureusement, les EHPAD et les personnes âgées passent au second plan.
Sur le site des Lilas. En fait, je travaille pour le groupement des EHPAD publics du Val-de-Marne. Et étant donné que je suis en détachement syndical, je me suis remise à disposition de mon établissement comme agent de bio-nettoyage, ce qui n'est pas du tout mon métier. Hein. Au départ, je suis en charge de la gestion administrative. Mais bon, comme il n'y a pas suffisamment de monde pour faire le ménage... Parce que si vous voulez pas que le virus se propage, faut nettoyer toutes les surfaces pour lesquelles les résidents mettent leurs mains, mettent leurs bouches, parce qu'ils sont déambulants, parce qu'ils sont, voilà, c'est personnes âgées, hein. Donc, si la personne, elle déambule en mettant ses mains partout et qu'elle est porteuse du virus, et qu'elle refuse de porter des gants, vous, à chaque fois qu'elle passe quelque part, vous repassez un coup. Et puis, nous, on a eu du matériel de protection bien plus tard que les hôpitaux, donc, au-delà des gestes barrières, on n'a pas eu des masques tout de suite. Quand on en a eu, on ne les a pas eu en quantité, ce qui faisait qu'on pouvait garder 7 ou 8 heures le même masque. Là, on est en tension sur les surblouses, les tenues jetables que vous mettez pour aller dans les chambres des résidents. On en est à faire fabriquer des surblouses par des associations. On en est à utiliser du matériel de cuisine. Les grandes blouses en coton blanche là que vous mettez dans les cuisines professionnelles, il faut pas oublier de mettre les surchaussures, et puis il faut surtout pas oublier de les enlever, parce que d'une chambre à l'autre, vous pouvez pas rentrer avec les mêmes surchaussures. Enfin, c'est beaucoup de difficultés qui s'ajoutent au quotidien. Les désinfections pour tous les soignants, pour tous les personnels de l'EHPAD, du directeur en passant par la femme de ménage ou inversement, l'hygiène est une pression permanente. Quand je pars le matin de chez moi, je prends ma température pour être sûre de ne pas avoir de température et me dire, bon, bah, je peux y aller sans prendre de risque. C'est une charge mentale en plus de la gestion du quotidien, parce que je sais que c'est moi qui apporte le Covid dans la maison de retraite, parce que nos résidents ne sortent pas. Ils ont plus de visites. Je sais pas comment vous dire. Et puis le personnel, il est fatigué parce qu'on a un absentéisme plus conséquent, parce qu'on a des personnels qui sont Covid, parce qu'on a des personnels qui sont en 12 heures et donc qui sont fatigués. Mais voilà, on nous a annulé les vacances, on nous annule le RTT. Enfin, moi j'ai des collègues de travail qui prennent des anxiolytiques pour dormir parce qu'elles font des cauchemars. Il y en a d'autres, elles se shootent à la vitamine C parce que sinon elles tiennent plus, elles tiennent pas. On a des collègues, elles arrivent le matin, en fin de matinée elles pleurent, voilà, parce qu'on a eu un événement indésirable. Moi j'ai mon fils de 13 ans qui me demande, maman, t'as perdu combien de résidents quand tu rentres, quoi. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça la réalité. Bon, bah, vous mentez pas, hein. Quand on vous pose ce genre de questions, vous dites la vérité, parce que c'est pas la peine de lui dire, oh, ben, t'inquiète pas, Pablo, tout le monde va bien. Ça sert à rien. Donc, je lui ai dit. Et donc, il me pose plus la question. On est démunis. C'est-à-dire que, entre le 11 mars et le 27 mars, ils se rendent compte qu'il y a une surmortalité et que la maladie, va être, une catastrophe dans le secteur des personnes âgées, mais ils ont rien fait. Donc aujourd'hui, vous avez une crise de Covid. Vous croyez qu'une personne de 94 ans qui vit en EHPAD, on va vous la prendre? Bah, je sais pas, moi j'ai pas vu encore. Bah, on trie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un hôpital qui trie pas les patients. Hein. Ça s'appelle la perte de chance.
C'est-à-dire?
Je suis un peu rude, hein, mais parce que c'est notre quotidien, c'est-à-dire qu'on triste. sur deux, on a un lit, on a quatre malades qui viennent, on va hospitaliser celui qui a le plus de chances de survivre et de s'en tirer. On va évaluer ses chances. Et l'hôpital public, c'est ça. Aujourd'hui. Le gouvernement, il nous a sorti un décret le 28 mars qui nous dit, en EHPAD, vous avez le droit d'utiliser le Rivotril. Là, on a le droit de sédater les résidents. Mais ce décret, il dit, bah, écoutez, comme de toute façon, on n'a pas les moyens de les prendre à l'hôpital, quand ils sont vraiment au bout de leur vie, en fin de vie, n'hésitez pas à les sédater pour éviter qu'ils souffrent. C'est-à-dire que là, le gouvernement légitime le fait qu'on ne pourrait rien faire pour nos résidents par l'utilisation du Rivotril. Grosso modo, c'est on sauvera pas tout le monde, mais il faut pas qu'ils souffrent. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge que vous avez votre place ou pas dans la société. Quand vous êtes vieux, très vieux, et malade et que vous êtes en EHPAD, on ne vous prend pas en compte. Donc, il y a un vrai problème d'agissement. Et il y a un problème sur l'accompagnement de fin de vie, bien sûr. Si on prenait en compte réellement la fin de vie dans notre pays, les EHPAD ne souffriraient pas d'un manque de moyens depuis tant d'années. On assiste depuis le début de la pandémie à des aberrations. Le Premier ministre annonce donc le 28 mars à sa conférence de presse, c'était un samedi, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. J'étais là, j'ai écouté comme tout le monde, et qu'il annonce que dorénavant, il faudrait que les résidents soient confinés en chambre. Soit. Dans l'établissement où je travaille, il y a 72 personnes, donc 72 repas trois fois par jour. La première aberration, c'est que les résidents dans un EHPAD, ils peuvent donc manger en salle à manger en toute convivialité. Là, ils nous disent, il faut qu'ils mangent en chambre. Ouais, sauf que vous n'avez pas le matos. Parce que pour faire manger 72 résidents trois fois par jour, il vous faut des adaptables. Vous savez, des tables hospitalières. On n'est pas censé en avoir en EHPAD. Donc, on a appelé la ville de Vitry. Qu'ils ont fait, ils nous ont prêté du matériel. Donc, ça veut dire qu'il faut servir 72 repas entre midi et midi et demi. Et veiller à ce que toutes les personnes qui n'arrivent plus à manger seules puissent manger. Donc, ça sous-entend que si vous en avez 22 qui ne peuvent pas manger tout seuls, vous mobilisez déjà toute votre équipe de soignantes, elles sont 8, qui sont les seuls agents habilités à donner à manger parce qu'il faut éviter les fausses routes, et vous laissez tous les autres dans leur chambre devant leur plateau, tout seuls devant la télé. Et ça, trois fois par jour. Si c'est pas maltraitant, pour les personnes âgées, je ne sais pas ce que le gouvernement essaye de nous dire, mais c'est que voilà. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour avoir des moyens dans les EHPAD. Est-ce que vous les avez vus venir? Parce que nous, on n'a rien vu venir. Le Premier ministre a annoncé 1500 renforts en EHPAD pour 7258 EHPAD sur le territoire national. Vous m'expliquez? On met un bras à un endroit, une jambe dans un autre, alors qu'on réclame à minima l'embauche de 2 agents par établissement. Je pense qu'il va y avoir un choc post-traumatique chez les professionnels de santé qu'on ne mesure pas encore. Parce que là, je vous parle, moi je suis dedans, quoi. C'est-à-dire que demain je vais travailler, donc voilà, je suis dedans. Mais quand ça va être fini tout ça, est-ce que je vous parlerai de la même manière? Je suis pas sûre. C'est-à-dire que on va avoir des pompiers épuisés, des personnels de santé épuisés, des gens qui voudront quitter les métiers parce qu'ils auront vécu des horreurs. Est-ce qu'on aura la force de continuer? Ça, c'est autre chose. Là, vous êtes là, vous faites bien votre boulot. C'est quand il y a eu les attentats, c'est pareil. On a félicité le corps soignant et puis après, regardez la misère qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Mais après le Covid, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de casser l'hôpital. Hein. Ils ont besoin que la fonction publique dans ce pays coûte moins cher. Donc, ils ont besoin de la réformer. Et pour la réformer, ils n'ont pas arrêté la loi sur la fonction publique du 6 août. Hein. Les ordonnances, ça continue à sortir. Hein. On continue de casser le service public pendant que le service public lutte contre le Covid. Hein. Les ordonnances sur la loi du 6 août 2020 sur la refonte et la transformation de la fonction publique, ils ne l'ont pas suspendu. Hein. La réalité, c'est qu'eux, ils ont un projet de société qui est à minima, et je suis très inquiète. Hein. Moi, je suis pas sûre. Ça va changer les Français, mais ça changera pas la politique de nos politiques.
C'était Tragédie dans les EHPAD, un reportage de Rémi Dibowski-Douatte, réalisé par Cécile Lafont et mixé par Claude Niort. Merci à Barbara Filol, à Gabriel Vesser, à Eric Lacoudre et un clin d'œil à Virginie Chardin. Cette émission est dédiée, nous la dédions particulièrement à Stéphanie, à Pierre, à Régis, à Serge, à tous ceux et celles, proches ou moins proches, qui ont perdu leurs parents en EHPAD et ailleurs pendant cette crise. Roxane Poulain, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeriwi, c'est notre stagiaire.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus.